Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, et pour célébrer les 50 ans d'existence de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, j'ai décidé de vous parler de longévité. Quels animaux atteignent des âges canoniques et pourquoi ? Partons à la rencontre de ces créatures sur lesquelles le temps ne semble pas avoir d'emprise. Pour l'interview, je poursuis les échanges initiés lors de l'épisode précédent avec Pierre Déhomme, le créateur de la Hulotte. Nous retournons donc sur ces terres dans les Ardennes pour évoquer la naissance du magazine, sa façon de le mettre en image et bien sûr son engagement naturaliste. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. De l'épopée de Gilgamesh au portrait de Dorian Gray en passant par la quête de Connor MacLeod dans Highlander, la recherche de l'immortalité semble être une idée fixe partagée par les êtres humains de toutes les époques et vivant sous toutes les latitudes. Vivre éternellement sans jamais avoir fermé les yeux et laissé sa place, cela vous laisse rêveur ? Navré de toucher vos espoirs, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que l'on vit tout de même de plus en plus vieux et en bonne santé. L'espèce humaine a vu sa longévité s'allonger de manière conséquente, notamment depuis les années 1970. En France, en 1725, l'espérance de vie ne dépassait pas 25 ans. Et ça pique. En 1900, elle est passée à 45 ans pour atteindre les 80 ans en moyenne en l'an 2000. La doyenne de l'humanité, Jeanne Calment, est décédée à l'âge inégalé de 122 ans et 164 jours en 1997. Et même si personne n'a atteint un âge aussi avancé qu'elle, les supercentenaires, les gens âgés de 110 ans et plus, existent bel et bien et ne sont plus si rares. Un article publié en 2014 dans le journal Plus One en comptait 74 sur la planète. Mais chez les autres animaux, qu'en est-il ? Trouve-t-on également des créatures qui résistent aux affres du temps ? Eh bien oui, et autant vous le dire tout de suite, nous faisons office de perdreau de l'année face à certains de nos colocataires sur Terre. Chimpanzés, éléphants, corbeaux et perroquets peuvent vivre plus de 60 ans. Mais ce sont des petits joueurs face aux tortues. Kiki, la célèbre tortue géante des Seychelles que l'on peut voir naturalisée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, s'est éteinte en 2009 à l'âge présumé de 146 ans. Jonathan, une autre tortue géante des Seychelles, vit encore aujourd'hui sur l'île de Sainte-Hélène, où il a été offert au gouverneur de l'île, Sir William Grey Wilson, en 1882. 30 gouverneurs se sont succédés depuis, mais Jonathan est toujours là, fidèle au poste. Vu sa taille, on estime que Jonathan avait au moins 50 ans lors de son arrivée sur l'île, ce qui lui ferait aujourd'hui environ 190 ans. On a d'ailleurs réalisé tout récemment que Frédérica, sa compagne depuis 1991, avec qui il s'accouple à des fréquences insolentes vu son grand âge, mais n'arrivait pas à concevoir de petit, est en réalité un mâle. Comme quoi, l'amour n'a pas d'âge, ni de sexe. Vivre sous l'eau semble prometteur pour faire de vieux os. En tout cas, c'est sous l'océan, là où on déambule, en faisant des bulles, que l'on trouve les plus grands vieillards. Ces eaux mystérieuses détiendraient-elles les secrets de la fontaine de Jouvence ? Peut-être. En tout cas, on peut penser que l'eau du bassin d'Anako, une carpe-koi japonaise, devait être un peu magique. Ce poisson appartenait au docteur Komei Koshihara, qui le tenait de sa grand-mère. La transmission d'Anako de génération en génération remontait à des temps très anciens. Le 25 mai 1966, le docteur Koshihara raconte l'histoire d'Anako qu'il décrit comme son amie la plus chère à la radio. À cette époque, on soupçonnait la carpe de rivaliser avec Mathusalem en matière de longévité. Pour en avoir le cœur net, le professeur Masayoshi Hiro, de l'Université des femmes de Nagoya, examine plus précisément le poisson. Son âge est estimé en analysant ses rangées d'écailles. Selon la saison et l'accès à la nourriture, le poisson ne grandit pas de la même façon. En été, la carpe mange plus et grandit plus vite. Ses écailles sont donc larges. En hiver, c'est le contraire et les écailles sont donc plus serrées. On peut ainsi déterminer sa croissance et compter les années de vie de l'animal. Les scientifiques sont soufflés par ce qu'ils découvrent. Leurs analyses leur révèlent l'âge estimé d'Anako. Elle a 215 ans. La carpe koi finit par rendre son dernier souffle le 7 juillet 1977, alors qu'elle est âgée de 226 ans. Elle serait donc née en 1751, soit 3 ans avant la naissance de Louis XVI. Anako serait donc le poisson d'eau douce le plus vieux jamais recensé. Mais, et dans les océans alors? Là, on joue dans une autre catégorie. Ce sont des animaux plus volumineux qui remportent la palme. Tous, cependant, affectionnent les eaux froides, un milieu particulier qui aurait une incidence sur leur métabolisme, et donc sur leur longévité. La baleine boréale, ou baleine du Groenland, Balaena mysticetus, est le plus gros animal vivant sur notre planète, juste après la baleine bleue. Elle peut atteindre les 18 mètres de long pour un poids qui peut avoisiner les 100 tonnes, soit environ le poids de 20 éléphants d'Afrique. Un article publié en 1999 dans le Canadian Journal of Zoology décrit comment les scientifiques ont pu estimer l'âge de ces baleines en analysant l'acide aspartique présent dans leurs globes oculaires, eux-mêmes issus de spécimens anciens conservés dans des musées. Ils ont aussi retrouvé dans le corps de ces animaux 6 armes traditionnelles anciennes utilisées par les Inuits pour la chasse à la baleine. Or, ces armes, lames, harpons, pointes en ivoire et en métal, ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles que l'on peut observer dans les réserves des musées, et qui étaient fabriquées au XVIIIe et XIXe siècle. Ces analyses des yeux des animaux et l'authentification de ces armes anciennes laissent peu de place au doute. Les baleines boréales peuvent donc atteindre les 200 ans, record battu pour un mammifère. Mais notre baleine n'est pas la doyenne des océans. Elle passe même pour une jeunette face à notre challenger suivant. Il s'agit du requin du Groenland, Somiosus microcéphalus, qui fréquente les eaux polaires du Nord et vit entre 200 et 300 mètres de profondeur. Certains individus peuvent atteindre les 6 mètres de long, et on estime qu'ils grandissent d'un centimètre par an seulement. Un article publié par l'équipe de Julius Nielsen dans le journal Science en 2016 décrit comment l'on peut évaluer l'âge de ces animaux grâce à une datation carbone 14 du cristallin de leur œil. L'étude révèle que certaines femelles requins du Groenland atteignent au moins les 272 ans et pourraient vivre jusqu'à 500 ans. Aussi, elles ne seraient en âge de se reproduire qu'à 150 ans. Il faut savoir prendre son temps. Des animaux qui dépassent les 200 ans, c'est quand même très impressionnant. Mais ce n'est pas le maximum que l'on ait pu observer jusqu'à présent. Le plus vieil animal non colonial jamais enregistré, qui ne soit ni une éponge ou un récif de corail, est un coquillage, un bivalve qui peut atteindre 13 cm de long, appelé quahog nordique ou clam d'Islande, Arctica islandica. En 2006, une équipe de scientifiques menée par Paul Butler pêche plusieurs de ces coquillages pour étudier l'évolution du climat au fil du temps. Il ouvre, puis congèle les spécimens pour les étudier et les dater. Mais 6 ans plus tard, les scientifiques réalisent qu'une de ces palourdes est plus vieille qu'ils ne l'avaient initialement pensé, et publient leur découverte en 2013 dans le journal Paléogéographie, Paléoclimatologie, Paléoécologie. Le coquillage doyen aurait eu 507 ans avant de mourir pour la science, soit 100 ans de plus que ce qu'ils avaient initialement estimé. Il a donc été baptisé Ming, d'après la dynastie Ming, qui était au pouvoir en Chine au moment de sa naissance. Et comment on sait tout ça ? Grâce à la sclérochronologie, une technique qui permet d'estimer l'âge d'un coquillage en comptant les stries de croissance sur sa coquille, un peu comme pour les écailles de la carpe Anako. Mais tous ces animaux, bien que très âgés, finissent par céder face à la grande faucheuse. Même les éponges et les coraux, qui peuvent atteindre les 3000 ou 4000 ans, finissent par mourir, rongés par le réchauffement et l'acidification des océans. Existerait-il un animal vraiment immortel, insensible au temps qui passe ? Un Benjamin Button des profondeurs ? Eh bien, oui. Chez une méduse, ces animaux du fond des âges sont des cnidaires, comme les anémones et les coraux, et elles ont un cycle de vie tout à fait fascinant. Elles changent de forme et d'aspect au cours de leur vie. L'œuf fécondé se transforme en planula, une larve dotée de cils qui se transforme ensuite en polype, qui ressemble à une petite anémone de mer avec une bouche entourée de tentacules verticaux. Ce polype se fixe alors sur des rochers, puis par bourgeonnement, le polype va former des petites méduses qui vont se décrocher et dériver librement dans l'océan. C'est via cette forme libre qu'une fois adultes, les méduses peuvent se reproduire de manière sexuée, en développant des gamètes fonctionnels, mâles ou femelles. Les animaux meurent après s'être reproduits, leur cycle de vie étant achevé. Une vie de méduse bien rangée en somme. Or, une petite maline a trouvé comment contourner les règles du jeu. Turritopsis nutricula, une minuscule méduse de 5 mm de long, joue les Peter Pan et refuse de rendre les armes. Halte à la sénescence. Notre méduse est capable, après s'être reproduite, de revenir au stade polype fixé sur un support. Elle est donc capable d'inverser son cycle de vie et de le recommencer à l'infini. Une fois redevenue polype, toutes ses cellules sont régénérées et elle repart pour un nouveau tour. Cette méduse a donc découvert le secret de la jeunesse éternelle. Elle est biologiquement immortelle. Tortue qui se prélasse au soleil, baleine et requin du Groenland qui dérivent au calme dans les eaux froides, clame ce qui filtre le plancton tranquillement du fond de l'océan, ou méduse voguant au gré des courants. Et si finalement, pour rester vivant longtemps, il fallait juste prendre son temps. Et nous revoici en compagnie de notre invité Pierre Deshommes pour cette deuxième partie d'interview. Le créateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, revient sur ses inspirations, sa façon de mettre le magazine en image et son engagement militant. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver à Boult-au-Bois, hameau des Ardennes bien connu des naturalistes, pour rencontrer Pierre Deshommes, fondateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Alors, vous avez commencé avec 800 abonnés. Aujourd'hui, au final, vous envoyez le magazine partout en francophonie, dans plein de pays différents.
Oui.
Est-ce que vous avez moyen de savoir combien de personnes sont abonnées aujourd'hui en 2021 ?
Ah oui, bien sûr. Oui. ça change avec la sortie de numéro. Alors, on a un problème. La Hulotte ne paraît pas régulièrement. Elle paraît très irrégulièrement.
C'est pas un problème.
c'est un problème quand même. Parce que les gens ne sont pas habitués à recevoir le numéro à date fixe. Donc, quelquefois, ils ne sont plus abonnés et ils ne le savent pas.
Ils ne le savent plus.
Et donc, on a dû inventer tout un système pour aller dire aux gens, attention, vous n'êtes plus abonné. Et donc, à chaque sortie numéro, il y a une chute du nombre d'abonnements, de gens qui ne sont plus abonnés, et on ne récupère jamais tous. Mais en gros, mais il y a des nouveaux abonnés, ça compense, et en gros, on est aux environs de 140-150 000 abonnés.
Et vous envoyez donc dans tous les pays où la poste
vient livrer. Essentiellement en France, mais je crois qu'on doit avoir, je vais vous dire des bêtises parce que j'ai plus de chiffres en tête, mais plus de 50 pays où il y a des abonnés.
C'est quand même assez impressionnant, surtout si on sait que le magazine ne peut se le procurer que sur abonnement,
oui.
et pas en kiosque. L'une de vos marques de fabrique, c'est que souvent il y a un récit, par exemple je repense au numéro sur le Martin Pêcheur, il y a une mascotte avec une pie qui commente et qui épie les faits et gestes du Martin Pêcheur, donc il y a toujours, pas toujours, par exemple sur le Moineau c'est moins le cas, mais où il y a quand même souvent soit un personnage extérieur, mais en tout cas un récit qui englobe ces faits naturalistes.
Voilà, il faut essayer de trouver un point de vue original pour raconter la chose. Alors oui, ça peut être une interview, ça peut être à la première personne, ça peut être à la troisième personne, ça peut être sous forme de procès, l'épicéa par exemple, qui est un arbre très contesté, vous savez. Bon, on a fait son procès avec ses défenseurs, parce qu'il en a quand même, et puis ses adversaires, les animaux qui sont venus à la barre témoigner des ennuis que leur procurait l'épicéa. Voilà. Bon, à chaque sujet... je vais essayer de voir comment je peux l'aborder, comment je peux le construire. Et puis, il y a une façon qui, à un moment donné, s'impose d'elle-même.
Une fois que vous avez réuni tous les éléments,
une fois j'arrive au texte, faire le texte, c'est ce que je vais le faire. Bon, là, le moineau, c'était la troisième personne. La coccinelle, je l'ai fait en deux parties, une à la première personne, une à la troisième. Il y a des choses que je ne peux pas faire à la première personne, parce que vous avez des animaux, donc on ne connaît pas tout. Donc si je ne sais pas expliquer un comportement, on est toujours en train de se demander comment l'animal fait pour faire telle ou telle chose, je ne peux pas, parce que lui, il est censé tout savoir de lui.
Donc, oui, c'est...
Je ne peux pas dire, écoutez, ça, je ne vais pas vous dire, c'est un secret. Donc voilà. Donc, et puis pour le reste, il faut essayer toujours de trouver des formules originales pour ne pas lasser le lecteur, ne pas être répétitif.
Et l'une de vos autres marques de fabrique, c'est l'humour, bien souvent. Et c'est aussi ce qui marque les gens. Outre le dessin, il y a toujours ces petites mascottes qui donnent leur avis ou qui commentent. Et c'est vrai que je me demandais si pour vous, l'humour, c'est quelque chose qui vous venait naturellement parce que dans la vie, vous aimez faire de l'humour. Et si vous voyez plutôt ça pour alléger un peu le propos et peut-être aussi faire venir des gens qui ne sont pas, enfin, même si souvent quand on lit La Hulotte, on aime la nature et les animaux, mais peut-être ramener aussi des gens qui, par l'humour, vont être attirés à un sujet qu'ils n'auraient pas...
Bien sûr. Ça, dès le début, j'ai choisi de faire de l'humour et de déminer le terrain, parce que moi-même, quand j'étais gamin, quand j'étais au collège, je n'aimais pas du tout les sciences nat. Ça me barbait, mais... mais c'était à l'époque les dissections de grenouilles, bah, les réceptacles, les étamines, tout ça, ça m'ennuyait.
Que des mots compliqués. Ouais.
Donc j'ai tout fait, j'étais encore en classe donc, quand j'ai démarré, tout fait pour que ça ne soit pas un cours. Ça ne ressemble en rien à un cours. Et ça, rien de tel que de prendre un langage qui soit un langage vivant, qui ne soit pas académique, qui ne soit pas compassé. Et de mettre de l'humour, de mettre des blagues, de mettre... voilà. Il y a aussi un autre avantage, c'est que ça permet de varier les points de vue. C'est-à-dire que si je parle de l'hirondelle, quelle belle bête, c'est merveilleux, elle vole, elle est magnifique, etc. On l'aime. Mais on peut aussi donner le point de vue moustique, ce ne sera pas le même. Donc j'essaye toujours de faire ces décalages, et ça, on peut le faire plus facilement par les petits dessins qui viennent en réaction du texte.
Voilà. Oui, puis souvent, c'est vrai qu'il y a à la fois les dessins naturalistes sur lesquels vous mettez aussi des blagues, ça arrive, je pense aussi toujours au Martin Pêcheur, où on voit la maman qui monte ses petits et qui dit « je les cache parce qu'ils sont trop laids ». Mais il y a aussi voilà, les personnages un peu plus cartoon, plus stylisés, qui souvent, voilà, comme des mascottes, viennent et interviennent à différents moments du récit. Mais souvent, ces petits personnages, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, et des fois, ils n'hésitent pas à leur donner leurs opinions. Notamment, par exemple, sur la chasse.
Oui.
Et je me demandais si vous vous étiez déjà censuré. Est-ce que vous étiez déjà empêché certains avis ou opinions? Ou est-ce qu'au final, aucune réserve, il mérite bien quelques piques?
Alors, censuré, je n'en ai pas le souvenir. Je vais me censurer si, à la relecture, je trouve qu'une blague est vulgaire ou sans grand intérêt. Mm. Voilà, je la souviens, mais ce n'est pas de la censure. C'est plutôt essayer de ne pas laisser passer de choses médiocres et... Mais les chasseurs, oui, bon, c'est vrai qu'ils méritent quand même,
ils méritent quand même
un traitement, voilà, un peu
qu'ils ont parfois cherché.
Bon, attention, hein, c'est pas les plus gros dangers que courent les animaux, hein. Enfin, si, ils dépeuplent les campagnes quand même. Hein. Non, mais par exemple, eh bien, autrefois, on ne voyait plus de cigognes noires, elles avaient disparu. Maintenant que les chasseurs ont quand même honte. Enfin, on ne doit pas dire les chasseurs, on doit dire certains chasseurs.
Parce qu'on ne voit pas
généraliser. Les pires. Le problème, c'est que les instances de la chasse protègent ces gens-là parce que ils ont besoin de clients, ils ont besoin de gens qui payent les cartes, et puis c'est devenu un bloc, une forteresse assiégée, donc il ne faut rien lâcher. Le monde de la chasse est comme ça. On le voit en ce moment avec tout ce qu'ils ont réussi à arracher comme avantage depuis que Macron est au pouvoir. Et donc, ils laissent des comportements qui ne devraient en aucun cas être admis, qui ne sont d'ailleurs pas admis dans les pays du Nord, hein. Mais on voit quand même les choses évoluer. Maintenant, un chasseur qui tue un rapace, il ne va pas trop s'en vanter, parce que c'est quand même plouc, hein, c'est quand même vieux. Ils finissent un petit peu par... Voilà, donc maintenant, plus personne ne tire sur les cigognes noires, et bien le résultat, c'est que les cigognes noires sont en train de revenir. Les forêts sont les mêmes, les paysages sont les mêmes. Qu'est-ce qui les empêchait d'être là? C'est la chasse.
Le seul facteur, hein, c'est sûr.
Et vous savez, ce cas tout à fait extraordinaire que j'aime un peu à raconter, de cette cigogne noire baguée en Belgique, hein, qui est descendue jusqu'aux Pyrénées, je crois, et puis à un moment donné, elle fait une rétro-migration.
Elle
est remontée à Paris. C'était très étrange. Elle était suivie par Balis Argos. Et en fait, elle a été tuée. Et le type l'a ramenée chez lui à Paris.
Il l'a planquée.
Voilà. Donc, comme les cigognes noires ne sont pas hyper nombreuses, même si vous avez un chasseur idiot sur 100, ça peut finir par faire des dégâts. En tout cas, pour ce qui est du gibier, puisque c'est comme ça qu'ils appellent les animaux, local, c'est relativement bien géré, il faut être honnête. Il y a beaucoup plus de chevreuils en forêt aujourd'hui que quand je suis arrivé ici. Que maintenant, il y a des plans de chasse, des plans de tir, c'est très strict, c'est très contrôlé, les animaux sont comptés en amont, etc. Donc, il ne faut pas faire une généralisation.
Oui, bien sûr.
Par contre, quand il s'agit des oiseaux migrateurs, alors là, c'est n'importe quoi. C'est des oiseaux migrateurs qui sont protégés dans tous les pays du Nord, qui arrivent chez nous, qui se font descendre. Ils ne trouvent plus un endroit où ils peuvent échapper au tir. Ça, c'est monstrueux. C'est ce que j'avais raconté dans le numéro sur la sarcelle d'hiver. Et j'avais vu à cette occasion professeur Tamizi qui travaillait en Camargue. C'est effrayant, cette inconscience, cet égoïsme et cette immaturité qui fait... Et les travaux du muséum, ou peut-être même de l'Office de la chasse, ont montré que si tous les pays d'Europe chassaient la sarcelle d'hiver comme nous on la chasse, elle disparaît en 2 ans. C'est impossible de mettre des choses comme ça. Mais comme le lobby de la chasse est très puissant, ben on continue à demander des trucs insensés comme de chasser au printemps, qui est une absurdité écologique.
Alors qu'il y a les jeunes et puis que les oiseaux sont venus, bien sûr.
Tout oiseau qui migre au printemps, c'est un oiseau qui est sauvé pratiquement. Il y a très, très peu de chances de mourir, c'est déjà un reproducteur.
Et puis, c'est vrai qu'il y a des espèces qui sont déjà avec des effectifs très faibles et qu'ils soient acceptés d'être chassés, ça paraît complètement aberrant. Enfin,
on accepte la chasse de nuit en France. Hallucinant quand même. La chasse de nuit. Et ils ont l'audace de vous dire qu'ils savent reconnaître les animaux la nuit.
Ils ont des yeux différents.
Alors, maintenant, ils gardent. Ils sont prudents maintenant. Mais autrefois, dans le chasseur français, j'ai trouvé des récits, je l'ai publié dans les Loves d'ailleurs, où ils sont à la chasse aux canards et ils tirent, c'est des sangliers. Donc, quand même difficile.
Quelques petites différences au niveau du comportement.
Difficile quand même de faire croire ensuite qu'il y a une discrimination. Voilà.
On ose espérer en tout cas que les choses vont dans le bon sens et qu'elles évoluent.
Je pense qu'elles évolueront, mais bon, à un rythme qui pourrait être un peu plus
accentué. C'est un peu frustrant quand on est acteur et qu'on s'intéresse à la sauvegarde de ces espèces. Et au niveau des dessins, donc c'est vrai qu'on l'a évoqué, donc il y a de l'humour, il y a des remarques acerbes, et ce qu'on remarque aussi souvent sont des références à la culture populaire, à des références à la bande dessinée. Par exemple, Martin Pêcheur, on le voit qui frappe les poissons comme les Gaulois dans les banquets d'Astérix, où on achève bien les barbeaux comme on achève bien les chevaux de Sidney Pollack. Vous faites souvent des références à des films, à des chansons. Est-ce que là aussi, c'est pour toucher un public plus large, ou c'est parce que c'est plein de choses que vous aimez,
c'est parce que ça m'amuse,
voilà, que vous collectez?
Ça me fait rire.
Et je me demandais aussi, du coup, au niveau du dessin, parce que voilà, cette référence à Astérix m'a fait réagir. Est-ce que... alors, déjà, c'est vrai que je me pose la question de... Est-ce qu'il y a des artistes naturalistes ou non, ou des travaux qui vous ont particulièrement influencé pour définir votre style graphique à vous, pour la Hulot, ou pas tant que ça?
Je pratique quelque chose de très particulier, c'est le dessin au trait, qui ressemble un peu à la gravure. Donc une vieille technique qui a disparu au début du siècle parce qu'elle a été exterminée par la photographie, bien sûr, qui était arrivée à un très très haut degré de perfection, dont je suis très loin, bien sûr.
Vos dessins sont quand même très détaillés.
Ah non, là, vraiment, quand vous regardez des gravures, des gravures de Doré ou de tous ces... Même, je ne parle même pas des grands artistes, mais des gens qui travaillaient en 3-8 à l'illustration, par exemple, là, vous avez quand même... On arrivait au sommet... d'une pratique. Alors, moi, il y a des artistes que j'admire beaucoup, comme Hénard, par exemple. Ça, j'ai énormément d'admiration pour lui. C'était un homme qui travaillait d'après nature, avec le crayon dehors, etc. J'en suis très, très loin, évidemment. Mais c'est pas cette technique-là que je travaille. Donc, j'ai eu des inspirations de gens qui ne sont pas forcément très connus, comme Manfred Reichel, qui était quelqu'un qui travaillait à l'encre, qui faisait des dessins magnifiques, sublimes. Voilà, celui-là, par exemple, ce nid d'Épervier, sublime, vraiment très beau travail. Voilà, donc je m'en suis inspiré, mais pour le reste, je vous dirais que je ne savais pas dessiner en démarrant la Hulot.
Les premiers numéros, c'était déjà vous qui les dessinez, tout de même.
Alors, j'ai toujours aimé dessiner des petits personnages, pas de la BD, mais enfin,
ce
qu'on appelle les petits Mickey, bon, les petits dessins, voilà, les petites caricatures. Ça, j'ai toujours adoré ça depuis que je suis gamin. Mais les dessins scientifiques, j'étais incapable de les faire. Ça m'ennuyait énormément. Et d'ailleurs, le premier numéro de la Hulot, j'ai demandé à un de mes amis qui était un très bon dessinateur, lui, alors vraiment très très bon dessinateur, de me dessiner la Hulot, qui illustre pas de moi le premier. Et puis bon, bah, j'ai appris sur le tas en fait, parce qu'il fallait faire des dessins et des dessins au trait. Techniquement, on n'avait pas d'autre choix. Est-ce qu'on ne pouvait pas reproduire des photographies avec les moyens qui étaient les nôtres?
Donc c'était vraiment la contrainte. Vous étiez obligé de passer par du noir et blanc pour l'impression.
Alors, beaucoup de choses sont faites comme ça dans l'histoire de la Hulot. Ça s'est fait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et puis après, quand on pouvait faire autrement, on s'est aperçu que finalement, on avait une originalité qu'on a conservée. Donc les dessins aujourd'hui, des revues en couleurs magnifiques, sur papier glacé, avec des photos sublimes, etc., vous en avez plein. On continue à le faire en noir et blanc, et puis ça fonctionne, puisque les gens s'abonnent, et puis ça permet plein de choses de faire les dessins, c'est-à-dire vous allez représenter l'animal dans la position que vous souhaitez. La photo, elle n'est jamais parfaite, il y a des ombres parasites, l'attitude n'est pas exactement celle la bonne, il y a une partie qui va être cachée par un détail de végétation, et puis vous avez tous les problèmes de profondeur de champ, c'est-à-dire que si le bec est net, ben, la queue ne l'est pas. Donc, ce système de dessin, il permet de choisir la meilleure forme, de l'enrichir avec toutes sortes de détails. Et très souvent, un dessin, je vais utiliser 3, 4, quelquefois 8, 10 photos en prenant un détail ici, pour reconstituer l'animal exactement comme je souhaite le montrer.
Et est-ce que c'est pas parfois difficile de trouver des références pour des comportements qu'on a du mal à voir, qu'on a décrits, qu'on sait qu'ils existent?
Oui, mais quelquefois, on ne les trouvait pas, tout simplement.
Et dans ces cas-là, vous basez sur des descriptions écrites
Non, j'invente pas de dessin. Non, ça, c'est trop dangereux. Ça, je ne ferai pas ça.
Non, mais même si, par exemple, vous avez la photo de l'animal, mais voilà, un comportement...
Non, ça, je ne fais pas. Si je ne peux pas l'illustrer, je l'illustre pas, mais c'est tout. Je peux, parce qu'en fait, il y a trois sortes de dessins différents dans la ilote. Il y a les dessins scientifiques, donc, qui sont appuyés sur des photos, donc très rigoureux, qui collent vraiment à l'animal, avec les détails les plus exacts possibles. Ensuite, il y a les petites caricatures, là où je m'autorise tout, j'ai tous les droits. Et puis, entre les deux, j'ai ce que j'appelle des commentaires dessinés, c'est-à-dire, souvent pour des scènes en mouvement, je vais faire ça sous une forme qui ressemblera un peu à une bande dessinée, qui tient un petit peu de la caricature et qui tient également de la représentation réaliste, qui est à cheval entre les deux. Bon. Alors, quelquefois, je peux résoudre la difficulté en faisant comme ça. Mais bon, ça arrive rarement déjà, et puis je me méfie beaucoup de ça, parce qu'on aura vite fait de faire une grosse erreur.
Vos dessins sont très précis. C'est vrai que bon, pour les auditeurs de la radio, il faut me croire sur parole, mais vous travaillez donc avec des feutres fins noirs, et voilà, il y a ce rendu...
Pas des feutres, des stylos entre les chines, des rotring. Des stylos qui ont la pointe tubulaire, dont la pointe est creuse et laisse passer un flux d'encre de Chine qui permet de représenter des traits jusqu'à 0,1 dixième de millimètre. Donc c'est très très précis. En plus, je travaille avec une loupe, quelquefois avec deux loupes d'ailleurs, un très fort grossissement. Et ensuite, ces dessins sont encore réduits de moitié à la photogravure pour obtenir quelque chose qui soit très très précis et très fin.
Et ça veut dire, donc, pour déterminer où va aller chaque dessin dans le magazine, qu'il faut en amont avoir pensé la maquette et savoir quelles illustrations vous voulez placer où.
Voilà, les dessins, c'est la dernière chose que je vais faire.
C'est quand, à toute fin du processus.
Quand ma mise en page est terminée, je sais où seront les dessins, à quelle page, quel volume ils occuperont. Et à ce moment-là, je les agrandis, je les passe au format 200%, je les dessine et elles seront ensuite réduites en photogravure.
On vous laisse ululer en rythme le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus.
Thank you.
C'était Solar Flares de Sven Liebeck, un titre de 1974. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité Pierre Déhomme, créateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Il nous parle de transmission des savoirs, d'Internet et de pédagogie. C'est parti.
J'avais quelques questions sur comment est-ce que vous voyez la vulgarisation des savoirs, la transmission. Et je voulais savoir si ce qui vous plaisait dans votre travail actuel à La Hulotte, c'était le fait de transmettre, de partager les savoirs, voilà, de vraiment cet échange qui vous motivait, ou est-ce que c'est vraiment la nature des sujets que vous traitez, c'est-à-dire voilà, apprendre des choses fascinantes sur les plantes et les animaux qui vous entourent, ou est-ce que c'est un tout ?
C'est un tout. C'est vraiment les deux. C'est les deux, oui.
Mais est-ce que, par exemple, vous auriez envisagé de transmettre, de partager sur d'autres thématiques que la nature, par exemple, je ne sais pas, moi, la géologie, la paléontologie, l'histoire, la physique ?
L'histoire, oui. C'était vraiment mon projet de départ. D'accord. J'étais intéressé que par l'histoire quand j'étais gamin.
Et ça a dévié sur
et
les
alors,
sciences naturelles.
En fait, je me suis aperçu que je ne pouvais pas vivre en ville. C'est stupide comme truc. Mais je suis allé à l'école normale, et là, j'ai souffert quand même de partir pourtant dans une ville qui est vraiment une petite ville. C'est Charleville, donc vous imaginez que ce n'est pas une métropole.
C'est quand même une ville où il y a peu.
Mais j'y étais profondément malheureux, et je me suis aperçu, alors j'ai toujours été un enfant de la campagne, j'ai toujours vécu dans des villages de moins de 150 habitants, avec toujours la nature partout. Je ne m'y intéressais pas du tout. Et quand j'avais 17 ans, je ne savais pas reconnaître un merle. Ça a l'air d'une blague, mais c'est la vérité. Et tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais besoin de nature, mais un besoin physique, un besoin fondamental.
Comme l'air.
Ça m'est tombé sur la tête, mais vraiment tombé sur la tête. Et à partir de ce moment-là, j'ai divergé, parce que je savais que j'étais parti pour être prof d'histoire, un truc comme ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Moi. Donc j'ai mis fin à cette histoire, tout en continuant à être passionné par l'histoire à titre personnel, ça c'est un autre problème. Mais j'ai bifurqué à ce moment-là, et j'ai fait du bagage d'oiseaux, et j'ai commencé à faire de l'observation, et puis ça ne m'a plus quitté.
Et c'est venu comme ça, donc le bagage d'oiseaux, l'ornithologie, c'est ça qui vous a remis en amour, je dirais, avec les sciences naturelles.
Voilà, alors il y a aussi le passage, c'est-à-dire que j'ai fait, grâce au bagage, la connaissance d'un vieux naturaliste, un instituteur très important. Ça, qui avait un vrai génie d'explication. Il venait dans les classes, il est venu dans ma classe avec des animaux morts, il faisait des cours stupéfiants, les gars, c'était scotché, je le revois encore arriver dans ma classe avec une grue, il rassemblait tout de suite, il prenait le pouvoir dans la classe, il disait, arrivez, je vais vous montrer une chose que vous n'avez jamais vue et que vous ne reverrez jamais.
Avec une accroche pareille, forcément.
Ça s'appelle bien vendre. Et donc, il arrivait et il faisait un cours avec la grue en expliquant son bec, les pattes, ce qu'il avait trouvé dans son estomac, c'était du blé. Et puis, d'où elle venait, etc. Les gosses étaient complètement scotchés, subjugués. C'est extraordinaire. Donc, lui, il m'a formé, il m'a appris énormément de trucs parce qu'il savait tout sur tout. C'était quelqu'un qui était un vrai naturaliste. Okay. Il avait appris la nature en 14, parce qu'il avait passé les 4 années de 14 hors classe. Okay. Il avait 7 ans, donc il n'est pas allé en classe pendant 4 ans. Et c'est sa grand-mère, qui était une très bonne naturaliste, comme souvent des campagnardes, hein, qui connaissait beaucoup, beaucoup de choses, hein, à cette époque-là en tout cas. Et donc il a été formé dans tous les domaines. Il élevait des abeilles, il élevait des pigeons, il pêchait, il savait... Les numéros sur les abeilles, il me l'a quasiment dicté. Il m'a donné tous les éléments. J'ai eu qu'à mettre ça en texte, trouver les idées et faire les dessins. Tout vient de lui. Je ne travaillerai plus comme ça aujourd'hui, hein, parce que je serai plus méfiant. Mais en tout cas, on n'a pratiquement jamais eu de critique sur le contenu. Mais pourtant, ça a été vraiment diffusé chez les apiculteurs. Et donc, lui, il m'a vraiment sorti des oiseaux. Il m'a dit, c'est bien les oiseaux, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Quoi, hein. Et il m'a fait connaître les plantes, les insectes, les mammifères.
C'est vrai que...
Ça, c'était une école très importante pour moi.
C'est assez impressionnant, c'est vrai qu'il y avait cette culture-là. Ça revient aussi, moi j'ai eu la chance de rencontrer quelques naturalistes qui sont assez impressionnants parce qu'ils sont aussi experts sur les espèces de punaises que les lichens de
leur région. Oui, c'est le scientifique à l'ancienne, une curiosité universelle. Et il avait aussi quelque chose qui m'a beaucoup servi, c'est qu'il avait évidemment l'expérience d'un temps qui paraissait invraisemblable, où la Meuse s'étant était propre, où on voyait les cailloux dans le fond. Oui. Où il y avait des loutres qui venaient en plein sedan jouer sur les rochers qu'ils me montraient. Et moi, j'avais la Meuse en 70.
Sans loutres.
un monstrueux égout à ciel ouvert. Plus aucune vie. Enfin, un truc Et là, j'ai pris conscience quand même de la dégradation phénoménale de ce qui était en train de se passer depuis quelques décennies, parce que lui, bon, il était né en 1907, c'est pas si vieux non plus, hein, donc... Il me racontait les histoires de l'avant-guerre. Moi, je suis né en 49, donc voilà, on mesurait vraiment. Et donc, après, les livres m'ont confirmé qu'on était bien dans une situation de catastrophe accélérée, quoi.
Ah, si, oui, c'est à l'échelle de 20-30 ans, quoi.
Oui, 20-30 ans. Ouais. Cela dit, c'était il y a 50 ans, la catastrophe n'est pas arrivée, mais enfin, elle arrive quand même.
Bah, on la sent arriver depuis un moment, quoi. L'idée, et je pense aussi que c'est une force de la Hulotte, c'est que ce n'est pas militant, dans le sens où l'idée, ce n'est pas d'imposer un message, mais... En gros, en donnant les faits scientifiques objectifs, vous donnez matière à réflexion à vos lecteurs et lectrices pour, si ce n'est s'engager, au moins regarder le monde extérieur différemment. Est-ce que vous avez eu la sensation, à votre échelle, de voir une différence d'impact ? Est-ce que vous avez des retours sur des engagements à titre personnel ou des lecteurs qui sont touchés par cette urgence dont vous parlez, voilà, on parle de réchauffement climatique, du plastique, de plein de choses assez désespérantes. Est-ce que la Hulotte, avec cette manière d'amener la nature dans le salon des gens, vous pensez qu'il y a une répercussion
Je ne saurais pas trop vous dire, en fait.
C'est une question difficile.
Sauf que je rencontre évidemment, enfin, on est en correspondance de plus en plus avec des scientifiques qui ont biberonné à la Hulotte. Ben, vu le temps, donc ils étaient enfants dans les années 80-90, ils étaient des lecteurs de la Hulotte et maintenant ils sont dans les labos, ils sont devenus scientifiques, voilà. Et donc quand on prend contact, on a encore eu le cas la semaine dernière avec un scientifique islandais, d'ailleurs, enfin l'Islande, mais il parle un français parfait, donc je pense qu'il devait être français au départ. Et on lui demandait des renseignements sur les migrations de merle en Islande. Et il me dit, mais la Hulotte, je connais très bien. C'est le journal que je lisais quand j'étais gamin.
D'accord.
Donc oui, ça, c'est merveilleux de voir ça. Pour le reste, le militantisme, non, je ne sais pas trop. Mais je sais que moi, personnellement, ce qui m'a vraiment formé, c'est la lecture de Géroudet, qui était un militant par ailleurs. Mais dans ses livres, il est factuel. Il décrit la vie des animaux de façon admirable, d'ailleurs. Pour moi, c'est un très grand écrivain, Géroudet. Et donc, en fait, il vous fait aimer les animaux parce que dès l'instant où vous entrez dans la complexité d'une espèce, vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être en complète admiration de l'adaptation. C'est quelque chose d'admirable. Bon. Et du coup, admirer, c'est aimer. Bon. Là, si vous voulez, quand vous parlez de la protection des oiseaux, c'est charnel. Vous savez ce que c'est qu'un oiseau. Moi, j'ai vu des militants écologistes... Hein, qui participaient à des manifestations anti-chasse à laquelle j'étais, et qui s'ennuyaient dans la nature. Ils s'emmerdaient. Parce qu'ils venaient lutter contre les chasseurs parce qu'ils détestaient la chasse, bon, pourquoi pas. Mais non seulement ils n'avaient aucune envie de s'intéresser aux animaux, mais ils s'ennuyaient physiquement, ils étaient pressés de rentrer en ville. Donc évidemment, c'est une motivation qui n'est pas forcément très solide. Alors que quand vous êtes vraiment... attaché aux oiseaux, ça devient charnel. Vous souffrez quand on leur fait du tort. Vous avez vraiment envie de vous battre. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est autre chose. Que, voilà, le grand ennemi, regardez les paysages ici, hein, il n'y a plus de haies, tout a été détruit. Les prairies sont en train d'être remplacées par des champs de maïs. C'est une vraie catastrophe, hein, au point de vue pollution, au point de vue disparition, à tout point de vue. Hein, à tout point de vue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben si, on peut participer à des opérations comme les coquelicots, des choses comme ça, mais enfin bon.
Mais vous avez quand même une action, en tout cas, en sensibilisant les gens, et c'est vrai que je pense que la première accroche émotionnelle par l'humour, puis par l'effet scientifique, en sensibilisant les gens, ça les pousse forcément à s'intéresser à ces questions-là. Et même si... ils ne trouvent pas de moyen d'agir. En tout cas, on peut penser alors, qu'ils ne feront pas de
mauvaises. Il y a aussi actions. Quelque chose, hein, si vous voulez. C'est l'action du consommateur, c'est la seule où il a du pouvoir maintenant. La politique, on voit ce qui se passe. Hein. Par contre, les consommateurs, je veux dire, une chute de 2% du chiffre d'affaires pour un industriel, c'est une catastrophe. Hein. Bon. Et par exemple, un des arguments du bio, c'est que le bio sauve les animaux, indépendamment de la santé humaine. Toutes les surfaces qui sont en bio sont des surfaces qui, par définition, deviendront riches en vie, hein, nécessairement, en vie du sol, mais aussi tout ce qui va, à condition bien sûr de garder les buissons, garder les arbres, etc., bien sûr. Mais souvent, ça va ensemble.
Ça va ensemble, oui. Mmh. Je me demandais aussi si, à titre personnel, vous étiez friand vous-même de vulgarisation scientifique. Est-ce que vous consommez, pour votre loisir, des livres, documentaires vidéo, émissions en radio, différents médiums pour, voilà, pour toucher des sujets scientifiques, que ce soit les sciences naturelles ou d'autres d'ailleurs?
Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps en fait.
Bah, j'imagine, vu le temps que ça vous prend.
Non, vraiment, bon, c'est un travail énorme, gigantesque. Et donc, j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose d'ailleurs.
Mais c'est vrai aussi que peut-être qu'il y a des sources autres, par exemple, que les publications de papier. C'est vrai que maintenant, il y a les documentaires, il y a de plus en plus l'émergence des nouveaux médias. C'est vrai qu'on parle des chaînes vidéo comme YouTube, etc. Ouais, est-ce que ça peut être pour vous des sources de documentation plus faciles à obtenir? Alors,
plus facile, pas toujours plus fiable.
Ouais,
mais ça, je ne vais pas faire d'attaque contre Internet, parce que je suis tout au contraire plein d'admiration. Et il y a des choses formidables sur Internet. J'ai horreur qu'on tape sur Internet. C'est quelque chose que je ne supporte pas.
Donc il y a de tout.
Mais il y a de tout, évidemment.
Vous avez des choses,
vous avez des choses, il y a à boire et à manger. Mais vous avez, par exemple, des conférences fabuleuses. C'est quand même extraordinaire, ça, dans tous les domaines. Moi qui m'intéresse à l'histoire, il y a des conférences sur des sujets pointus qui sont passionnantes par des gens dont c'est le métier, alors là, qui sont vraiment très très fiables. Ça, c'est une richesse extraordinaire. Même les radios comme France Culture ne peuvent pas donner ça. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a un grand avenir, ça, hein, le YouTube, à condition qu'il ne continue pas cette politique de censure qui
est
effroyable et vraiment très inquiétante. C'est un outil formidable, parce que vous avez des gens qui, avec trois fois rien, vous avez des gens qui ont un vrai talent d'explication, de pédagogie, hein. C'est ça la pédagogie, hein. Et donc on voit des petits chefs-d'œuvre sur YouTube, c'est vrai.
Il y a des choses très inventives, ouais, c'est vrai qu'il y a tout. Mais
il y a
comme
tout,
vous disiez,
mais après il y a le triste frein, hein, parce que cette espèce de possibilité de recommander les émissions qui vous ont plu, ça fait que quand même les choses remarquables émergent. Enfin, en tout cas, je le suppose, hein, moi j'ai pas fait d'études là-dessus.
Bon, il y a du bien, il y a du moins bien sur YouTube. Mais du coup, est-ce que Internet, ça a modifié un peu votre manière de travailler sur la conception des magazines?
Ah oui, bien sûr, ça a révolutionné tout.
Pour trouver la documentation, j'imagine, surtout.
Ça n'a plus rien à voir, à tout point de vue. D'abord, l'accès aux documents scientifiques, aux travaux scientifiques, ça, de plus en plus, maintenant, ils sont sur Internet. C'était quand même une difficulté, quelque part, hein, quelquefois, de les trouver. Et puis alors, la photo. Sur les photos, c'est vraiment... Alors, si j'aborde un sujet, je vais éplucher pratiquement tout ce qui existe en photo. Et non seulement je les récupère, mais je les analyse une par une pour trouver celles qui seront vraiment qui vont m'illustrer. Je les décortique, je regarde tout ce qu'il y a, les détails, et je me fais des fiches pour pouvoir retrouver un bec ou une patte
sur
ou
telle
une
photo,
plume.
Ouais.
Voilà. Et pour le moineau, j'ai été en chercher plus de 5000. Ça, c'est une source que je n'aurais jamais eue autrefois. Dans les livres, il n'y avait pas ça. Parce qu'il y a énormément de mauvaises photos, bien sûr. Mais vous en avez des formidables. Et puis, même des photos qui ne sont pas d'une qualité, j'allais dire, artistique, mais qui, pour moi, sont épatantes. Parce que j'ai vraiment des éléments dont je suis affamé.
Puis elles vont montrer voilà, un comportement qui vous intéresse.
Voilà,
et
oui,
même
tout
si
à fait,
elles
bien
pas,
sûr, bien sûr.
Pas jolies, elles sont informatives, et c'est ça qui compte. Toujours sur Internet, donc la Hulotte est toujours dans l'air du temps, parce que la Hulotte est sur Facebook, vous avez 60 000 abonnés sur la page, avec des gens qui suivent les actualités, et moi je me suis amusée, parce que dans le dernier numéro sur le moineau, dans une de vos illustrations, on le voit qu'il se désole, parce qu'il n'a pas plus de followers malgré ses tweets nourris.
Ah oui.
et je me demandais si vous regardiez un petit peu, enfin si ça vous... Si ça attisait votre curiosité, les réseaux sociaux, les nouvelles façons de communiquer qui émergent, ou si c'était quelque chose que vous laissiez de côté. Est-ce que vous y intéressez un petit peu, voir comment ça fonctionne, voir même les interactions sur la page de l'Hulotte? Est-ce que des fois vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble?
Oui et non, j'ai pas beaucoup le temps, donc mais oui, je tombe. Il y a tout, hein, y a le meilleur et le pire. Le grand danger, c'est que les gens sortent ce qui leur passe par la tête d'une façon où ils réfléchissent. Hein, Blanche Gardin a fait a dit des paroles définitives là-dessus. Et donc ça c'est quand même un peu embêtant. Maintenant, non, c'est... Enfin, je sais pas, le problème, c'est l'addiction aux écrans, quand même.
Comme on disait, c'est vrai que les réseaux sociaux ont ce principe ouais, de rendre les gens addictifs, quoi.
Et puis surtout, on passe quand même un temps infini à brasser le vide, quand même. Parce que quand on va sur les forums, y a de tout aussi, hein, des forums très passionnants. Il y a des trucs comme insectes.org, il y a des forums pour des naturalistes qui sont géniaux.
Et qui sont sources...
qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 20 ans, ça c'est formidable. Avec des tas de gens très pointus qui répondent, c'est formidable ça. Alors tout dépend de l'usage qu'on en fait, voilà. Si c'est ça, ben, c'est merveilleux. Et puis si c'est faire du bashing ou sortir tout ce qui vous passe par la tête
ça arrive
avec
aussi.
Des pensées quelconques, bon, c'est regrettable, mais ça a toujours existé aussi. Hein, bon.
C'est juste que c'est
ça remplace un peu le bistrot. Hein,
complètement. Bon, voilà. Alors ça,
faut pas idéaliser le passé, hein, parce que franchement, par contre, effectivement, le fait de passer ces journées entières sur les écrans, je vois avec mes petits enfants, ça c'est quand même un peu inquiétant.
Mais tout est toujours question de, oui, de parcimonie, de mesure. Quoi.
On oppose le livre et Internet, mais les livres, il y a aussi des livres sans intérêt. Il y avait des Je veux dire.
Il y en a toujours aujourd'hui.
Oui. Des livres qui sont abominables. Hein. Mein Kampf, c'est un livre. Hein.
Tout à fait.
Il ne faut pas non plus idéaliser ce qu'il y avait autrefois.
Ce qu'il y avait avant. Non, mais complètement. Ouais. C'est vrai que il faut vraiment voir ça comme des approches complémentaires. Quoi. Ouais. Au final, ce sont des façons différentes d'accrocher un public, mais c'est pas forcément. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Quoi. Enfin, c'est... Et d'ailleurs, j'ai remarqué aujourd'hui sur le site de la Hulotte que vous faisiez aussi des fois des. Enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça, des partenariats avec certains scientifiques. Sur le site de la Hulotte, on peut télécharger un document qui vise à inventorier les frelons et qu'on peut envoyer au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Un programme un peu façon science participative. Ça, du coup, ça s'est fait à votre initiative ou c'est le muséum qui vous a contacté?
Alors, ça, c'est clair qu'il s'est occupé de ça. Moi, je n'ai pas trop supervisé. Je sais qu'elle est en contact avec les gens du muséum et qu'on renvoie, chaque fois que les gens disent qu'ils ont des frelons asiatiques, on les renvoie vers le muséum, puisque le muséum a un observatoire qui tient, comment dire, qui s'intéresse à tout ce qu'il peut y avoir de nouveau, bien que maintenant, le frelon a envahi... L'essentiel de la France. Hein,
oui, il est partout.
Voilà, mais c'est les sciences participatives, ça aussi, on parlait d'Internet. Sans Internet, c'est impossible.
Et puis, ça prend une ampleur. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait avoir des informations dans une commune. Là, tous les gens de France peuvent donner leurs informations.
On suit les migrations en direct. Enfin, c'est des choses dont je rêvais quand j'avais 20 ans. Imaginez de suivre la migration des grues en direct.
Regarder dans les nids avec des webcams, ça c'est...
Voilà, regarder dans les nids avec des webcams, ça c'est formidable. Hein,
oui, on peut regarder.
L'appareil photo numérique. C'est merveilleux. Les gens envoient des tas de photos extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, qu'ils ont pris avec leur
téléphone,
leur smartphone. C'est des choses prodigieuses. Hein.
Et qu'on ne soupçonnait pas il y a 15 ans.
Qu'on n'imaginait pas.
Ah ouais.
On n'aurait même pas pu rêver de ça. Oui.
Donc, avec la Hulotte, il y a donc une boutique, parce que, outre les magazines, vous avez mis au point tout un système de classeurs, de tri, mais aussi quelques produits dérivés. Mmh. Quelques qui restent très cohérents avec le contenu du magazine, papier à lettres, auto-société, etc. Je voulais savoir si vous aviez envie de développer un peu ce pan-là de vos activités ou si vraiment vous vouliez rester concentré sur le magazine qui était votre priorité, quoi qu'il arrive.
Complètement.
Le magazine avant tout.
On va, quand on lance un nouveau produit, il faut vraiment qu'il ait une utilité. Sinon, on ne le fait pas. Par exemple, la petite loupe. La petite loupe, pour moi, c'est aussi... indispensable qu'une paire de jumelles pour un ornitho. Et ça peut changer, je dirais pas la vie, mais la façon de voir la nature.
La perception qu'on peut avoir.
Le petit snappy, l'attrape insecte.
J'en ai acheté 3, je crois. Oui. J'en ai acheté 3.
Ça, c'est, voilà, c'est formidable. Les gens sont ravis parce que ça les ennuyait de taper les mouches. Voilà, on les relâche. On respecte la vie.
Ça permet d'attraper l'animal sans le blesser,
voilà,
de
ou l'observer, hein, parce que vous pouvez très facilement l'observer, marier à la petite loupe dont je parlais tout de suite. Bon, ça, pour moi, ce sont des produits, les nichoirs qui permettent, ou les mangeoires qui permettent de voir les oiseaux de près, tout en les aidant. Bon, voilà, tout ça, mais on ne va pas s'amuser à faire des objets.
Qui n'ont pas de sens.
Qui n'ont pas de sens, ouais. Oui, qui n'ont pas de sens.
Et est-ce que vous envisagez, ou est-ce que ça vous plairait de publier vos travaux sous d'autres formats, par exemple, pourquoi pas avec des éditeurs, ou par exemple un recueil d'illustrations, parce que là, des images de la Hulotte, vous en avez produit quelques centaines, voire quelques milliers. Est-ce que c'est une idée qui vous tenterait, ou est-ce que vous tenez vraiment à votre indépendance,
coûte que coûte ? Ah oui, on tient à notre indépendance. Bon, après... Bon, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Mais non, on ne cherche pas à le faire parce qu'il y a aussi une chose, c'est que notre équilibre financier, il dépend aussi de la diffusion des numéros anciens. Donc, publier des bouquins, oui, pourquoi pas, enfin, je sais pas.
On vous a déjà démarché pour ça ?
Oui, bien sûr, on a eu des propositions d'à peu près tous les éditeurs.
Et vous avez dit non à chaque fois ?
Oui.
Moi, je trouve ça admirable. Vous menez votre barque là
mais
où vous avez envie
d'aller. On est indépendant, si vous voulez. Moi, je n'ai pas un éditeur qui va me dire « Ah, oh, faire un truc sur les araignées, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Non, je fais un truc sur les araignées. Je dis, il y a des gens qui vont créer barque, hein, mais c'est tout. De toute façon, en plus, ils vont l'avoir. C'est parce que comme ça marche par abonnement,
oui.
Ils le reçoivent. Et puis, on a eu souvent des retours de courrier en disant « Je ne m'intéressais pas du tout à ce genre de bête, mais j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je n'en reviens pas moi-même de m'être intéressé à ça. » Ça n'arriverait pas s'il n'y avait pas le système des abonnés, parce que dans une librairie, ils n'auraient jamais acheté ça.
Ah, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça avec le système d'abonnement. Au final, on ne sait pas de quel animal ou quelle plante
absolument.
Vous allez traiter.
Et alors, les gens tiennent absolument à ce qu'on ne donne pas à l'avance les sujets qu'on va traiter. Ils veulent avoir la surprise. Ça, on a vraiment une masse de courriers considérable là-dessus.
Ils tiennent
à avoir
la
surprise.
Voilà. Le mystère.
Le numéro qui tombe et on ne sait pas de quoi il va parler.
Et en tout cas, vous tenez bien vos promesses, parce que c'est vrai que ça reste toujours un secret bien gardé. La Hulotte fêtera, si je ne me trompe pas, en 2022, ses 50 ans d'existence.
Oui.
On l'a dit, hein, y a des générations de gens qui ont grandi avec. C'est devenu une référence, hein, même au sein de scientifiques chevronnés. J'aimerais savoir si vous aimeriez poursuivre l'aventure aussi longtemps que vous avez envie de le faire, ou est-ce que vous songez, à un moment donné, si ça demande trop de travail, si vous avez envie de prendre la distance, de, pourquoi pas, le confier à des repreneurs pour la suite, ou vraiment l'idée, c'est de, tant que vous avez envie, vous le faites, et advienne que pourra.
Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Oui. D'abord, je m'ennuierais de ne pas le faire. Je pense que je mourrais vite. Maintenant, la nature m'arrêtera, forcément. Hein. Personne n'est éternel.
Après, tant que vous avez la force et l'envie, c'est ça.
Voilà,
ce
pour
compte,
l'instant, c'est le cas. J'ai pas de problème particulier qui m'empêche de continuer. Je continuerai. Maintenant, si je m'aperçois que c'est en train de décliner fortement et qu'il vaut mieux s'arrêter tout de suite, je le ferai.
Mais est-ce que vous songeriez, si par exemple vous mettez en accord avec un ou des gens qui prendraient votre suite, est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez ou...
La question ne s'est pas posée, je suis ni pour ni contre, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ça en fait, parce que de toute façon, la question ne se
c'est
pose
pas
vraiment. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que l'avenir réservera. J'ai jamais tellement fait de plans. J'en ai jamais fait, en fait. Les choses se sont faites un peu, voilà, parce qu'elles devaient se faire. Et j'ai jamais eu de plan en me disant, je vais faire ça, et puis après
et puis,
ça.
Dans deux
et
ans,
dans,
ça,
dans cinq ans, je ferai ça. Non, pas du tout.
Et ça a très bien marché. Donc, il n'y avait pas de raison de s'en faire. Et du coup, comme vous le disiez, c'est quelque chose de très chronophage, qui vous demande beaucoup d'énergie. Est-ce que malgré tout, donc, presque 50 ans après, vous avez toujours autant de plaisir, vous découvrez toujours autant de choses, et ce plaisir voilà, d'apprendre, de transmettre, est-ce qu'il est toujours aussi présent ?
Écoutez, je vous dirais que s'il n'était plus là, j'arrêterais. J'ai besoin de... Non, bien sûr. C'est vraiment la chose qui me passionne. Et pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en sera dans les années qui viennent, mais pour l'instant, non, j'ai aucun ennui, et j'ai toujours le même plaisir à le faire.
Et vous ne ressentez aucune pression ? Pour continuer les publications, parce qu'on pourrait se dire quand même tous ces abonnés qui attendent leur numéro, est-ce que des fois ça vous met pas un peu le stress de se dire il faut finir le numéro dans les temps, etc.
Non, je me pose pas cette question-là parce que ce qui est important pour moi c'est que le numéro soit nickel. Voilà, ne pas laisser de problèmes, de trucs pas bien terminés, de trucs pas bien vérifiés, etc. Donc il faut qu'il soit le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire que c'est parfait, hein, bien sûr, mais
qu'il soit, ouais.
Voilà, c'est ça qui compte. Après, le retard, il y a peu de gens qui râlent en disant si, il y en a, ils disent est-ce que le numéro ne serait pas paru parce que j'ai toujours
je
pas
reçu,
est-ce que c'est normal. Bon, ça, il y a beaucoup quand la sortie est tarde à venir, on a ce genre de. Mais non, les gens, on a quand même des lecteurs formidables, très sympas,
qui vous suivent depuis longtemps, bien sûr.
Ouais, très patients, voilà. Non, c'est quand même une aventure merveilleuse sur ce plan-là, parce que, aussi bien que les scientifiques et que les lecteurs, c'est un vrai plaisir.
Plaisir partagé. Un grand merci à Pierre Deshommes pour son accueil chaleureux et pour ses nombreuses confidences. Et joyeux anniversaire à La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Bravo et vivement la suite. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. outre le magazine La Hulotte, dont le numéro 112 vient de paraître, que je vous recommande chaudement, j'aimerais pour conclure cette émission vous proposer quelques lectures complémentaires. Cette chronique sur les animaux à la longévité impressionnante a été en partie inspirée par le sublime album documentaire intitulé « Éternité, demain, tous immortels », écrit par Philippe Nesman et superbement illustré par Léonard Dupont. Il est paru aux éditions de La Martinière Jeunesse. Ce beau et grand album de 92 pages aborde les grandes questions qui tournent autour de l'immortalité. Qu'est-ce que le temps? Comment définir le vivant? Mais aussi parler de disparition des espèces, des extinctions ou des causes du vieillissement. L'auteur nous présente également des mythes qui parlent d'immortalité autour du globe, des religions et de leurs croyances sur ce qui se passe après être passé de l'autre côté. Il évoque aussi bien les momies de l'Égypte antique que le transhumanisme de demain. Autant de sujets passionnants que l'on picore page après page à travers des textes courts et vivants. Les grandes illustrations de Léonard Dupont, colorées dans des dégradés de bleu et orange, mon combo couleur préférée, subliment le tout. L'ouvrage est un régal qui traite de sujets rarement abordés dans un album à destination de la jeunesse. Je vous le recommande chaudement. Quand l'on évoque les journaux naturalistes, outre La Hulotte et Espèces que je vous ai présentés dans le numéro précédent de cette émission, on pense souvent à La Salamandre. Ce magazine a été fondé en octobre 1983 par Julien Perrault, un jeune garçon suisse passionné de nature alors qu'il n'était âgé que de 11 ans. Il en est toujours le rédacteur en chef aujourd'hui et outre le magazine qui se décline aujourd'hui en trois formats, il est aussi à l'origine des Minutes Nature, des formats courts vidéo sur YouTube, un festival éponyme qui a lieu chaque année en Suisse et l'édition d'ouvrages et de films naturalistes. Le magazine principal, qui sort tous les deux mois, est le plus ancien, totalise 267 numéros et s'adresse majoritairement aux adultes. On y trouve un dossier central, souvent consacré à une espèce animale, végétale ou mycologique. Le dernier numéro traite des corbeaux, et on les en remercie. Et d'autres rubriques comme Grand Angle, qui met en avant le travail de photographes animaliers, ou Tous dehors, qui pousse les lecteurs à sortir, à observer la nature en extérieur. Le magazine, et c'est là une de ses grandes forces à mon avis, laisse une grande place aux illustrations, photos et dessins naturalistes. Deux variantes du magazine ont vu le jour depuis, la Salamandre Junior et la Petite Salamandre, qui s'adressent aux plus jeunes, de 8 à 12 ans et aux moins de 7 ans respectivement. Les trois magazines sont disponibles sur abonnement, mais aussi en kiosque. La Hulotte peut être fière d'elle, elle a fait des petits. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez à la pêche.